sur Blueprint.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la cartouche épisode 53, le podcast Blueprint qui se plonge comme ça, comme dans une piscine, dans le jeu vidéo d'aujourd'hui. Je m'appelle Yann Rieder, je suis dans mon peignoir et comme à chaque épisode, je suis accompagné de mon comparse Lula Sinafoubert. Salut Lou.
Salut Yann Rieder.
Alors je tiens à le dire, hein, pour toutes les personnes qui se disent « Mon Dieu, Yann n'est pas assez habillé, Yann est tout nu sous son peignoir », c'est pas vrai. J'ai également un t-shirt et un short, donc je tiens à le préciser, je ne suis pas indécent ce soir devant vous.
Ce serait pas le premier podcast qu'on enregistre dévêtu.
Mais surtout l'été en fait, c'est extrêmement nécessaire quand on reste dans la même pièce et qu'on ferme les fenêtres, qu'on coupe les ventilateurs. Alors, évidemment c'est pas un problème en octobre, mais effectivement en juin, à l'approche de l'E3, pendant l'E3, après l'E3, c'est compliqué, c'est vrai. Et parfois en septembre aussi. Hein,
parfois en public.
Et parfois en public, alors on peut moins se mettre à poil en public. Encore que peut-être avec, je ne sais pas, il faudrait regarder les anciens gags visuels de la Miss Météo de Canal+, qui avait divers solutions pour être à poil en public, tout en énervant pas trop le CSA. On s'inspirera évidemment en contactant Lina. Voilà, au programme de cet épisode de la news, des belles recommandations de vidéos à regarder. Nos réponses à vos courriers également au suivi, mais tout d'abord notre avis sur le tout nouveau Yooka-Laylee. Il s'appelle Yooka-Laylee and the Impossible Lair.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le titre me dit vaguement quelque chose.
Eh bien, c'est le deuxième jeu de Playtonic Games, le studio créé par d'anciens de chez Rareware, donc Rareware à qui on devait Banjo-Kazooie, Grabbed by the Ghoulies, Viva Pinata,
Donkey Kong Country, GoldenEye.
Voilà, dans sa première itération, le studio s'appelait même Ultimate Play the Game et avait des jeux en 8 et 16 bits que la plupart du temps, personne n'avait envie de jouer vu qu'ils étaient assez limités. Non, je déconne quand même, mais c'est peut-être les moins intéressant dans la collection Rare Replay. Toujours est-il donc deuxième jeu de Playtonic, cette fois-ci il n'est pas fondé sur un financement participatif, mais on a toujours les mêmes personnages, ceux de Yooka et de Laylee, relativement le même univers, on est toujours dans de la plateforme, mais cette fois-ci ce n'est pas de la plateforme 3D, c'est de la plateforme 2D, hein, dans le style de Donkey Kong Country.
Tu as joué combien de temps du coup ?
J'ai joué un peu plus de 7 heures. D'ailleurs, c'est intéressant, le jeu, quand tu le démarres, t'indique le nombre d'heures auxquelles tu as joué. Là, je ne l'ai pas lancé pour vérifier, mais je sais que c'est en tout cas plus de 7 heures, voire même peut-être plus de 9 heures, je ne sais plus. Il ne me reste plus que 3 niveaux à faire, et puis le niveau de fin évidemment, mais il ne m'en reste plus que 3 à
terminer. Ça a l'air court du coup.
Enfin, c'est oui et non parce qu'il y a plein de choses à débloquer, il y a plein de choses à faire dans tous les sens, donc oui et non. Effectivement, en ligne droite, oui, encore qu'on le verra, le niveau de fin réserve son lot de surprises. Quant à toi, Lou, combien de temps y as-tu joué puisque tu y as joué un petit peu chauffé par mon teasing au précédent épisode où je commençais à y jouer et je disais ah, il a l'air quand même vachement, vachement bien.
Effectivement, devant ton enthousiasme, j'ai été obligé de me ruer du coup sur le caméléon et la petite chauve-souris. C'est vraiment un aspect preview plutôt parce que j'ai joué juste un tout petit peu plus de 2 heures.
D'accord, très bien.
Alors, comme le premier épisode qui empruntait beaucoup à Banjo-Kazooie, on l'a déjà dit, chez Rare déjà, donc cette licence, est-ce que celui-ci suit la voie finalement de Donkey Kong Country, un autre jeu de Rare, mais qu'on a revu récemment du coup chez Retro Studio avec Donkey Kong Country Returns.
Et Tropical Freeze sur Wii U et également sur Nintendo Switch, qui est l'un des supports sur lequel on retrouve ce Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Eh ben, oui et non, dans le sens où Yooka-Laylee Impossible Lair emprunte à énormément de jeux de plateforme. Alors c'est vrai, la roulade sautée de Donkey Kong Country, les objets collectionnables, on reparlera des pièces tweet qui sont assez importantes, qui sont cachées dans chaque niveau, il y en a 5 par niveau, tout ça rappelle Donkey Kong Country, c'est certain.
Ça rappelle Rare aussi de manière générale parce que c'est déjà une mécanique de Banjo-Kazooie et donc du premier épisode de Yooka-Laylee, ils adoraient toujours nous mettre plein de choses à collectionner à chaque fois.
Bien
là
sûr.
C'est encore le cas.
Là on n'est pas à ce point-là ceci dit parce qu'on a évidemment plus de niveaux, c'est pas des mondes, 5 mondes à explorer, c'est autour de 24 niveaux si je ne dis pas de bêtises, ou non, de 20 niveaux qui ont également 20 variantes, mais on reviendra sur cette idée de variantes dans un instant. On a également la mécanique du sidekick à rattraper qui est directement tirée je pense de Yoshi's Island, donc on se rappelle dans Yoshi's Island vous faites toucher par un ennemi, le bébé Mario saute du dos de Yoshi et vous devez le récupérer dans un temps imparti. Vous avez à peu près la même contrainte qui est que si jamais vous vous faites toucher, Laylee, la petite chauve-souris, commence à voler un petit peu dans tous les sens et si vous la récupérez pas après quelques secondes, elle va s'envoler et partir. Mais À la différence de Yoshi's Island, la partie n'est pas ratée, vous devez pas recommencer, vous ne perdez pas de vie si vous perdez bébé Yoshi pour de bon, ou en l'occurrence dans ce cas-là plutôt Lily. Vous pouvez la récupérer avec des petites clochettes qui sont disséminées dans différents niveaux et qu'il faut faire sonner pour la retrouver. Ceci étant, vous avez une pénalité, vous n'avez pas tout votre moveset, vous n'avez pas toutes les possibilités que vous offre le personnage, ou plutôt les personnages quand Lily est avec vous, notamment la possibilité de faire un petit saut prolongé, une petite pirouette dans les airs qui rappelle celle des New Super Mario Bros. Donc là aussi on voit l'inspiration d'autres jeux qui se réinjectent, c'est vraiment de la référence dans la référence, notamment dans les mécaniques de jeu. Également, et ça c'est quelque chose qui a vraiment été mis en avant par Playtonic Games au moment d'annoncer ce jeu-là, il y a une idée de jeu dans le jeu, puisque pour passer d'un niveau à l'autre, on a un overworld, donc un petit univers dans lequel on va explorer, on va activer les différents niveaux, mais il y a aussi la possibilité de remplir des petites quêtes, des petites énigmes ici et là, et c'est un peu plus poussé qu'on le pense, donc déjà ça c'est chouette, et en plus c'est inspiré d'un autre overworld qui est celui de Banjo sur Game Boy Advance. Je ne sais pas si tu avais fait Banjo sur Game Boy Advance, mais c'est la première chose que ça m'a rappelé.
Je l'avais fait, effectivement c'est vrai qu'il y a de l'inspiration. Alors c'était un jeu, c'était assez complexe parce que c'était un jeu en 3D, 2D, enfin les différents niveaux de compréhension étaient assez difficiles, délicats à analyser, je trouve. C'était rigolo, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié complètement cet épisode.
Et c'est vrai, mais c'est marrant de voir en fait qu'ils reprennent dans toutes les étapes de l'histoire, un peu de l'héritage Rare en faisant ça, et de manière générale de l'héritage des jeux de plateforme. Les toniques de Yooka-Laylee sont également de retour. Alors là, non seulement il y a des modifications sur les pouvoirs de Yooka et de Laylee qui reste plus longtemps une fois que vous vous êtes fait toucher, plein de choses dans le genre, enfin des sauts qui sont plus longs, il y a différentes choses à activer, et c'est des petits pouvoirs que vous trouvez dans l'Overworld et que vous pouvez activer pour la première fois. Ensuite vous pouvez les activer quand vous voulez, mais pour les activer pour la première fois vous devez payer en plumes, et les plumes c'est l'équivalent des pièces dans Yooka-Laylee. Il y en a énormément par niveau, vous pouvez vite vous en faire un max, sauf que si vous prenez et que vous activez des toniques qui rendent le jeu plus facile, dans ce cas-là un multiplicateur qui va être en votre défaveur va s'appliquer au nombre de plumes que vous récupérerez en jouant. Ce qui fait par exemple que si vous avez, je sais pas, le tonic qui fait en sorte que Yooka reste, que Lily reste plus longtemps si Yooka se fait toucher, votre multiplicateur il va descendre à 0,8, donc vous n'allez avoir que 80% des plumes que vous récupérez dans le niveau. Ce qui est une contrainte intéressante. Vous avez également d'autres toniques qui changent notamment l'aspect visuel du jeu et qui va à fond dans le délire. Vous pouvez par exemple avoir des modèles en polygone réduit pour rappeler un petit peu le style Nintendo 64. Vous pouvez avoir un style film noir avec des petits du grain sur la pellicule entre guillemets, en tout cas à l'image, extrêmement pixelisée, qui rappelle un petit peu les modèles compressés des personnages dans Donkey Kong Country. Bref, il y a plein de toniques différents qui ont plein d'effets différents, et là la collectionnite peut encore être aiguë avec ce jeu de plateforme 2D. Le concept de niveau alternatif, je le disais, est à mon avis assez réminiscent de Wario Land 3, Wario Land 3 sur Game Boy Color, qui est un des jeux proéminents de la Game Boy Color, un des jeux exclusifs d'ailleurs à cette plateforme, mon cher loup. Dans Wario Land 3, il y avait donc la variante de jour et de nuit de chaque niveau, et dans chaque niveau du coup des chemins différents s'ouvraient, des ennemis différents étaient là, mais etc., etc. Par exemple, dans la ville, la nuit, les ennemis dorment. Ça, c'est le cas dans Mario Land 3. C'est un petit peu la même chose dans Yooka-Laylee, sauf que dans ce Yooka-Laylee Impossible Lair, vous avez la possibilité d'activer différentes variantes qui sont plus sophistiquées que simplement jour et nuit. Là, déjà, c'est extrêmement créatif. Par exemple, vous allez avoir un niveau qui est horizontal. Dans l'Overworld, vous allez pouvoir le transformer en niveau vertical. Et tout d'un coup, tout change. Et ça, c'est une idée qui est franchement chouette. Il n'abuse pas du même gimmick, c'est pas à chaque fois, une fois sur deux, le niveau est juste immergé dans l'eau et voilà. Et ça donne assez peu l'impression de rejouer au même niveau différemment. Certes, on réutilise les mêmes assets, souvent, avec simplement un shading différent, des ombres différentes, une lumière différente qui peut être appliquée, mais c'est vraiment réarrangé. Et ça donne une expérience vraiment radicalement changée du niveau auquel on vient de jouer. Et ça, c'est franchement appréciable. Certaines alternatives, vous allez peut-être les avoir assez rapidement après avoir battu le niveau original. Certaines autres vont venir beaucoup plus tard. Et dans certains cas, j'ai même remarqué que le niveau alternatif était proposé avant le niveau normal. Là aussi, voilà, ils jouent vraiment avec cette forme-là. Et je trouve cette volonté de s'amuser des conventions du jeu de plateforme, vraiment rafraîchissante pour ce titre-là. On voit vraiment qu'ils ont pensé ce jeu de plateforme 2D d'une manière qu'ils n'avaient pas réfléchi au code d'un jeu de plateforme 3D avec le Yooka-Laylee original qui était vraiment là pour être plus du fanservice. Yooka-Laylee Impossible Lair ne tombe pas dans le piège d'être un jeu de fanservice, à mon avis. Il est vraiment dans l'utilitarisme pur de faire un jeu de plateforme 2D fun et inventif. Et ça, ça change beaucoup de choses. La dernière fois que j'avais remarqué un jeu vidéo de plateforme qui faisait autant référence à des mécaniques et à des gimmicks de level design que celui-ci, c'était Sonic Lost World sur Wii U. Paye ta référence. Et le problème de Sonic Lost World sur Wii U, c'est que c'était de l'inspiration, mais c'était de l'inspiration vraiment j'ai copié sur mon voisin. Là où Yooka-Laylee Impossible Lair, à mon avis, c'est vraiment de l'inspiration intelligente qui voit ce qui a marché dans d'autres jeux et qui se dit comment est-ce qu'on peut tordre ça à notre manière dans notre jeu. Et ça, c'est radicalement différent à mon avis. Le jeu se contrôle aux oignons. Je trouve, au début, t'as le feeling que c'est un petit peu lent. Je sais pas si ça a été ta réaction toi, Lou, au départ, mais quand tu le prends en main et que t'as jamais joué à Impossible Lair auparavant, tu te dis qu'est-ce qui se passe, mes personnages vont super lentement à l'écran.
Alors, pas forcément dans la lenteur, mais moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est le manque d'inertie, en fait, au final. Parce que je trouve que t'as un côté très... Je sais pas comment le dire, ça fait bizarre au niveau du feeling. Tu sais, t'as l'impression que tu tombes et que ton personnage, c'est une espèce de sac à patates que tu fais bouger comme ça.
Alors, va jouer à Tropical Freeze, je peux te dire que c'est 100 fois pire. Parce que le côté un peu, je fais un saut et mon personnage, il glisse comme si c'était la finale des Jeux Olympiques en patinoire. Enfin non, c'est c'est ce qui crée beaucoup de morts, en fait, dans les jeux Donkey Kong Country, je trouve, cette inertie violente. Tandis que là, à mon sens, en tout cas, dans Impossible Lair, on est sur un groupe de personnages qui se contrôlent beaucoup mieux. Mais vas-y, continue, je suis désolé de t'avoir interrompu.
Non, enfin, c'était vraiment cette impression, voilà, d'avoir un personnage trop lourd, et du coup, ça fait, je sais pas, c'est en général, c'est un sentiment que tu trouves dans les jeux, je sais pas, c'est pas les grands jeux de plateforme, ils ont vraiment une gestion du personnage, du mouvement, de la fluidité, en fait, qui fait que t'as l'impression que ça coule. Et là, par moment, je trouve que ça coule pas assez, en fait, dans la façon dont tu te mouvois.
Je sais pas, je trouve un truc très intelligent, par exemple, dans les mouvements, c'est la roulade. La roulade n'est pas infinie, vous allez rouler une seule fois et accélérer, c'est avec le bouton d'attaque tout en courant. Et en fait, la roulade est étendue si vous percutez un objet qui peut se casser ou qui peut s'ouvrir sur votre course, ou alors en percutant un ennemi. Et si jamais vous le tuez, vous allez continuer votre roulade pour encore un petit instant. Et je trouve cette mécanique-là, enfin, en termes de flow, en termes d'enchaînement d'action, là aussi extrêmement intelligente et extrêmement agréable. Il y a une élégance, je trouve, dans cette palette de mouvements, dans le choix des touches également, dans Impossible Lair. Je trouve qu'il n'y a rien à revoir. Là où les jeux Donkey Kong Country de Retro Studio ont toujours été un petit peu empruntés, avec les différentes touches, que ce soit par exemple pour faire la frappe au sol, il y a également la roulade, il y a également prendre un objet, il y a également s'accrocher aux vignes qui parsèment parfois les niveaux, les surfaces des niveaux. Je trouve que Yooka-Laylee Impossible Lair, comment dire, répartit assez bien ses mouvements sur la manette. Je sais pas ce que t'en penses toi aussi.
Oui, non, c'est assez bien pensé. Juste au début, j'étais surpris, c'est que j'ai lancé une charge au sol, alors une claque amicale, comme on dit dans le jeu, sans faire exprès, en plein milieu de...
Avec la gâchette, pourtant.
Avec la gâchette, effectivement, mais j'ai dû appuyer sans faire exprès, vraiment, et c'était, tu sais, au niveau de Impossible Lair, justement, le repère impossible, qui est très difficile, et d'ailleurs, on n'a pas expliqué, en fait, ce concept.
On va y venir. Il vient un petit peu plus tard dans mon explication, justement, parce qu'en fait, c'est le moment où le jeu, comment dire, c'est le moment où mon plaisir s'arrête avec Yooka-Laylee Impossible Lair. C'est l'Impossible Lair, justement. Mais tu vas voir, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le level design, je le disais tout à l'heure, il est très chouette. Chaque monde a ses idées propres. Et qui d'ailleurs se démarque des nombreux jeux de plateforme que j'ai déjà pu jouer. Il n'y a rien de pire que de jouer à un jeu de plateforme qui est sympa sur le papier, mais dont le level design n'est pas original du tout. Reprend des idées que tu as déjà vues, reprend des mécaniques que tu as déjà vues, et n'en fait pas grand chose. C'est pour ça, justement, que je dis tellement de bien de jeux comme Céleste. Et du coup, comme également Yooka-Laylee and the Impossible Lair, j'allais dire Tropical Lair, j'allais mélanger les titres comme ça. Je le dis comme ça parce que justement, c'est pas si commun de trouver des bons jeux de plateforme qui ont vraiment une originalité dans ce domaine-là. Par contre, Et là, je crois que c'est un point sur lequel on est d'accord. L'intro est vraiment mal amenée.
Ah, oh, c'est une horreur. On te parachute. Tellement mauvaise.
On te parachute dans ce premier niveau qui est également le dernier niveau, sans trop t'expliquer pourquoi. L'écran titre t'explique vaguement pourquoi, mais c'est vraiment fait à l'arrache. Et les explications en mode de tutoriel sont pas réussies. Ça dure pas trop longtemps, mais c'est vraiment quand j'ai lancé le jeu. À ce moment-là, je me suis dit, oh non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin, c'était, alors j'étais au courant du gimmick du premier et du dernier niveau. Puisqu'en voilà, tu joues au premier niveau, tu commences le jeu, et en fait, tu vas vite t'apercevoir que c'est beaucoup trop dur. puisqu'en fait, on te montre le dernier niveau, le méchant Capital B te bat très facilement, il te dit, bah, il faudrait revenir quand tu seras plus fort, et la personne qui t'accompagne dans cette aventure, au-delà de Yuka et de Lily, te dit, bon, en fait, tu vas devoir recruter des soldats abeilles, tu en débloques un par niveau que tu termines. Donc, à chaque fois que tu termines un chapitre ou sa variante, tu débloques un soldat abeille.
Une vie, quoi.
Et tout ça, c'est plus un coup en plus que tu peux prendre. En vrai, t'as pas de checkpoint. Et c'est le seul niveau qui n'a pas de checkpoint dans Impossible Lair. Ce qui fait que si tu tombes à ta mort, on te récupère. Mais enfin, en soi, c'est juste... Oui, on peut dire que c'est des vies, mais en vrai, c'est juste des hit points, quoi. C'est juste des points de vie, en quelque sorte. Et ça c'est compliqué parce que j'y suis allé avec plus de la moitié des abeilles débloquées et j'ai pu survivre que jusqu'à 20% du niveau sur mon deuxième essai du niveau après la première fausse tentative qui est celle de du début du jeu évidemment et donc je doute que ce sera confortablement faisable même avec toutes les abeilles ce que je compte avoir tu vois mais voilà donc le niveau de mon expérience le niveau de fin est abusé. Et c'est dommage parce que c'est tout le gimmick du jeu. Ce qui faisait le charme de ce concept-là dans The Legend of Zelda Breath of the Wild, de pouvoir aller à la fin du jeu dès le départ, entre gros guillemets, une fois que t'as fini la partie un peu tuto et que t'as récupéré la voix, les différents pouvoirs, c'est cette idée que tu peux y aller maintenant et ce sera extrêmement dur, ou tu peux y aller plus tard et ce sera jouable. Là, j'ai l'impression que même si tu y vas plus tard, ce sera pas si jouable que ça. Je fais une parenthèse en ajoutant que il existe un trophée qui n'est pas nécessaire pour avoir le platine pour ceux qui vont jouer sur console Sony ou sur console Microsoft d'ailleurs qui requiert de terminer le repère impossible sans avoir débloqué la moindre abeille donc dès le départ.
Ouf.
Et qui, ah ouais. et qui présente une petite surprise à la fin. Et ça, non. Ça,
tu m'étonnes.
J'ai vu très rapidement le nombre de séquences du repère impossible. Je vois que des gens arrivent à le faire, hein. Tout à fait. Mais juste, c'est vraiment pas à la portée de quelqu'un qui n'est pas un speedrunner sur Twitch. Sincèrement. Ça me paraît dingue. Donc, heureusement, ils l'ont pas mis dans le platine, mais c'est quand même assez abusé.
Moi, j'ai pas eu le temps de me rendre compte parce que je suis mort, comme je te dis, vraiment, sans plaisanter, je crois que c'est au tout premier saut du repère impossible. Tu vois, donc je me suis senti con et je me suis dit, en fait, c'est obligatoire, mais j'aurais bien voulu voir jusqu'où j'aurais pu aller, en fait, tu vois.
Et c'est dommage parce que ce niveau-là a une inspiration très Shovel Knight, je trouve, très Propeller Knight, donc le chevalier avec l'hélice sur la tête, dans sa construction, ou même, d'ailleurs, fait un peu aussi référence, je trouve, au dernier niveau de Shovel Knight. Mais en fait quelque chose à mon sens de trop difficile sur l'autel de son gimmick des abeilles à débloquer une par une, je trouve qu'il donne pas suffisamment de chance, peut-être justement pour éviter le risque que quelqu'un le termine véritablement au départ, ce qui serait un petit peu dommage vu que c'est le vrai niveau qui est chargé dès le départ. Mais bon, voilà, c'est surprenant et au final ce pari là est pas tout à fait réussi, mais à mon avis ça ternit pas le jeu. Pour revenir enfin sur 2-3 autres points qui sont positifs quand même par rapport à Impossible Lair, chaque monnaie dans le jeu sert véritablement à quelque chose, et Dieu sait que dans les jeux de plateforme, quand vous avez plein de formes de monnaies différentes, des petits objets à collectionner, etc., parfois ça sert un peu à rien. Là, les plumes servent à quelque chose, les petites médailles, les 5 médailles à débloquer sont utiles également. Même si, l'idée c'est que ces médailles, ces 5 médailles que vous pouvez récupérer, qui sont planquées dans chaque niveau, ces pièces ou médailles, qui sont numérotées de 1 à 5 d'ailleurs, donc vous pouvez un peu savoir si vous en avez manqué une, la combientième c'est, et à peu près où est-ce que vous êtes censé les chercher. C'est pas vraiment un problème pour progresser jusqu'à la dernière limite où on vous en demande 30 d'un coup. Donc on vous demande de réussir, au-delà de toutes celles que vous avez débloquées auparavant, de récupérer l'équivalent de 6 niveaux complètement polichés à 100%. Ça, je trouve un peu abusé. Et c'est pour ça que je suis à ce stade un petit peu bloqué pour débloquer les trois derniers niveaux. Là, je trouve ça un petit peu rébarbatif. Et c'est dommage parce que si simplement cette limite-là était un peu plus basse, ça aurait certes créé du challenge comme le font par exemple les demandes en diamants dans Captain Toad Treasure Tracker où on te dit il faut tant de diamants pour pouvoir avancer à la suite, mais en même temps où c'est pas trop frustrant non plus, d'autant que je fais une petite parenthèse, Captain Toad Treasure Tracker les niveaux se finissent beaucoup plus rapidement, c'est des petites madeleines, tandis que là un niveau du Kalaili Impossible Lair c'est quand même un petit investissement de temps, faut chercher, enfin c'est pas aussi évident, c'est parfois un petit peu cruel les défis de plateforme que vous devez faire pour récupérer certaines pièces, donc je trouve cette limite là un peu abusée. Toi, je pense qu'en deux heures de jeu t'as pas encore été confronté à ça.
Non, effectivement, j'ai pas vu grand chose. Hein. Je crois que j'ai fini 8 niveaux, du coup. Mm. Donc c'est.
T'as déjà dû faire face à une première porte, ceci dit, de Trouser.
Oui, j'ai fait 2 portes de Trouser. Mm. Après, c'est vrai que j'ai relativement peu exploré le hub, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant justement ce hub parce que t'as quand même quelque chose. C'est vraiment un monde en fait. Mm. Je le considère vraiment comme un monde à part. Avec ces petites quêtes, comme tu disais, qui rappelaient un peu.
Et il y a de la vraie plateforme dedans en plus, c'est ça qui est chouette. Ouais. Enfin, alors, il y a encore plus d'inertie parce que c'est vu top-down et t'as encore moins de marge de manœuvre pour faire le con, mais c'est franchement chouette.
Ouais, j'ai plutôt bien aimé, mais ouais, je sais pas, ça sent encore un petit peu rip-off en fait. Mm. Et ce qui m'a le plus dérangé personnellement, c'était vraiment le chara-design que je trouve horrible. Là, pour le coup, déjà dans le premier, ça ressemblait à une copie chinoise clairement de Banjo-Kazooie. Mm-hmm. Là c'est encore le cas, ils te ressortent forcément les mêmes personnages.
Moi,
donc
Ukulele, je les aime bien.
Ukulele, oui, à la rigueur, mais tous les autres personnages, tous les PNJ, il y en a aucun pour attraper l'autre quoi.
À mon avis, Trouser et Capital B sont sauvables.
Ok, allez.
Les autres, j'admets que c'est plus compliqué.
Il manque de charisme, clairement.
Ceci étant, ils sont quand même pas mal planqués, les autres personnages. Je veux dire, tu t'en croises un ou deux, tu croises Vendy au début du jeu.
Vendy, mon dieu, non.
Mais en gros, les personnages que tu croises, généralement, t'as jamais à leur parler véritablement. Genre, tu les croises une ou deux fois. Pour moi, le personnage que je trouve le plus scandaleusement designé, c'est le caddie avec des yeux.
Celui-là,
les concons. Là, je suis d'accord.
Il fait peur à tout le monde.
Là, il est horrifiant. Mais le reste, il est horrifique. Mais le reste, on s'en fiche. Enfin, moi, je m'en fiche en tout cas. Je peux pas appliquer mon opinion aux autres, mais
assez bizarrement, je trouve qu'on est presque à un niveau de, et y compris d'ailleurs au niveau des petits ennemis, tout ça. Mm-hmm. Ça me fait penser à Skylanders.
Maintenant que tu le dis, oui, ils ont un petit côté Skylanders, les ennemis.
Même dans les couleurs choisies, les formes et tout, et je trouve que malheureusement ça fait un peu générique, pardon. Tu sens que ça manque de caractère, et on dirait un jeu PS1, PS2 vendu à 30€ et développé en 6 mois.
Alors,
malheureusement.
Je suis d'accord, mais c'était un des gros points faibles de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Le chara-design était également très peu inspiré au niveau des ennemis. Au niveau des ennemis. Non, excuse-moi, des tam-tams partout.
Ouais.
C'était quand même complètement débile.
Oui, c'est sûr que ça a moins de classe que les Kremlings, c'est sûr.
C'est
donc ouais. Après, comme toi, j'étais vraiment choqué par l'intro qui est ultra nulle. Enfin, je veux dire, c'est le pire immédiat stress du monde.
Je suis tout à fait d'accord.
Vraiment, je m'attendais à ce qu'il y ait au moins une petite cinématique, tu vois, un lien avec l'épisode précédent. Là, on te fout dedans, mais vraiment.
Le pire, c'est que
ridicule.
Il y en a un, mais on te le dit juste pas. C'est ça qui est dingue en fait, c'est que c'est expliqué ailleurs dans le jeu, mais on te le dit pas.
Ah non, mais c'est très mauvais et tellement pas maîtrisé que c'est très amateur en fait. C'est ça que je trouve dommage, c'est que ce jeu finalement, pour moi, il fait plus amateur droit que Ukulele, le premier Ukulele. En revanche, tout ce qui est level design, le principe des mondes qui changent, ça clairement, je trouve ça extrêmement bien, extrêmement rigolo. Et vraiment, ça change vraiment, quoi. Mmh. J'ai fait le niveau des scies. Donc t'as des plateformes qui bougent et des scies qui essaient de te couper par endroits.
Oui.
Et là, il est recouvert par du miel un peu partout. Alors, ça rappelle un peu Donkey Kong Country 2, justement. Mais du coup, ça immobilise complètement les scies, mais t'as un gameplay qui est complètement différent parce que ça ne joue plus sur le mouvement, mais sur la façon dont tu peux anticiper tout ça. Et c'est vraiment malin. Pareil, le niveau des fontaines, un coup elles sont en eau, un coup elles sont en glace, ça change énormément de choses. Et graphiquement, je trouve que c'est très réussi. Les effets de profondeur, les modélisations des décors, je trouve que les environnements eux par contre sont vraiment bien réussis. Le level design pour moi il est simple mais relativement efficace. Je veux dire c'est pas novateur, tu vois, c'est rien de ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est une copie correcte en fait, on va dire. Du coup, toi de ton côté, est-ce que tu recommandes ce jeu?
Alors pour ma part, je recommande. Alors juste un petit point avant de faire ça quand même très rapidement. Le jeu tourne en 60 images par seconde. Il est clean, y compris sur Switch. Et c'est la première fois que Playtonic ont sorti un jeu en 60 images seconde. C'est réussi. La seule exception à ça, c'est certains toniques visuels qui ralentissent le moteur de jeu et qui le font souffrir. Voilà. Mais voilà, donc pour ceux qui se posent la question, je le fais sur Switch et même sur Switch j'en ai bien, et d'après ce que je vois, notamment je crois que c'est nos amis de chez Digital Foundry, ils tournent bien également sur les autres versions, sur les versions console, sur PC, etc. Donc tout va bien de ce côté là est-ce que je le recommande? Oui, malgré le dernier niveau dont je vous dispense, hop, cadeau, voilà, ne le faites pas. C'est un des meilleurs jeux de plateforme 2D de la décennie à mon goût.
Wow,
et les quelques défauts du jeu ne font pas d'ombre à ses grandes qualités. Enfin, franchement, hein, au-delà des deux défauts que sont le dernier niveau et la dernière gate pour débloquer les trois derniers niveaux, enfin, j'ai le même, si tu veux, le même plaisir que devant Super Meat Boy, que devant Céleste, et il est vraiment pas impossible que je me le refasse dans un ou deux ans juste par pur plaisir, comme je me refais de temps en temps du Céleste ou du Super Meat Boy. Ouais, carrément.
Très bien.
C'est un coup de cœur personnel. Et c'est pour ça que ça m'a un peu brisé le cœur de le voir se prendre des notes très très moyennes en ce moment. Et de voir que commercialement, il connaît pas un succès fulgurant. Ouais. Parce qu'à mon avis, il mérite beaucoup plus que ça, malgré ses petits défauts.
La licence rayonne pas, hein. Clairement, c'est difficile pour eux d'exister.
Ils auraient peut-être eu intérêt à, en termes de licence, de partir sur une autre licence et de faire ce jeu-là. Mais bon. Ça, c'est la tristesse.
En tout cas,
et toi?
Moi, effectivement, je trouve plutôt sympa, effectivement.
Tu regrettes pas ton achat?
Je regrette pas mon achat, d'autant que je l'ai pas acheté, vu que c'est
tu regrettes pas ton vol à la Fnac?
C'est pas un vol non plus, mais merci au distributeur, du coup, pour le test. Mais c'est vrai que ça a un goût très proche du premier, un bon exercice de style, mais vraiment une, j'irai pas jusqu'à, en termes de copie, parce que c'est vraiment réducteur, mais il y a un manque d'innovation. Clairement, ça va pas assez loin dans la, c'est pas assez profond, je trouve, en termes de travail. Mais je passe un bon moment en deux heures, mais tu vois, j'ai pas d'effet, ah, je veux trop y rejouer et tout. C'est pas un jeu qui me hante. Et je peux comprendre les vues assez moyennes, en fait, finalement, sur le titre, malheureusement.
Je visualise. Après, je suis très heureux sur ce test-là, qu'on ait vraiment des opinions, différenciées. C'est pas souvent quand on teste le même jeu qu'on a des opinions vraiment différentes. Et là, c'est le cas, en tout cas, sur plusieurs points. Donc je suis heureux qu'on ait pu donner nos vues, en fait, et que les gens puissent réfléchir un petit peu sur cette base-là. Oui.
Les dieux savent à quel point je voudrais aimer ce jeu, tu vois, hein, Playtonic, Rareware, forcément Banjo, tout ça, tu sais, je veux l'aimer. Et c'est peut-être pour ça aussi, peut-être que j'en attends beaucoup plus, justement, venant de ces personnes. Peut-être j'en attends finalement un peu trop.
C'est en tout cas, encore une fois, c'est un jeu très intéressant, et c'est là qu'on voit différentes publications, même différents testeurs, publier des avis qui tranchent. Et je pense que là, à mon sens en tout cas, la conversation autour de ce jeu-là, comme d'ailleurs la conversation autour du premier Ukulele qui a également été polarisée, va être intéressante à suivre dans les semaines et les mois qui viennent, tant qu'il y aura des vidéos qui vont sortir sur le sujet ou des articles, etc. Justement parce que ça permet de considérer un jeu sous différents angles plutôt que « Oh là là, Spider-Man sur PS4, qu'est-ce qu'il est impressionnant !» C'est un peu toujours la même take de oh, « Mon Dieu, jeu à gros budget, à gros budget !» Quelle surprise. Enfin bref. Donc voilà, très chouette. Merci Lou. On va maintenant s'attaquer un petit peu à d'actu. Et je vais faire en sorte de remettre les mots dans l'ordre correct dans mes phrases. Lou, as-tu entendu parler de l'analogue Pocket?
Pas du tout. Tu vas pouvoir m'expliquer ce que c'est, du coup.
Ah, cool. Eh bien, c'est une console portable par Analog qui fait déjà depuis, quelques années maintenant, je crois, différentes consoles qui prennent les jeux d'origine, qui ont un petit support cartouche qui se branche à une télé, qui d'ailleurs souvent offre un port manette de l'époque. pour pouvoir jouer au jeu sur un support qui lui par contre a un peu moins pris la poussière. L'Analog Pocket, comme son nom l'indique, c'est une console portable dont en termes de design elle s'inspire beaucoup de la Game Boy Pocket, hein, on va être très clair. Tu peux le voir sur le site internet si tu l'as ouvert et si vous l'avez ouvert
d'ailleurs.
Chers auditrices, chers auditeurs, c'est analog.co/pocket, le lien dans la description de l'épisode. En gros, c'est comme une Game Boy Pocket mais avec un bouton X et Y en plus des boutons A et B et également avec des boutons de gâchette. Alors à quoi ça sert d'avoir des boutons de gâchette, des boutons comme ça un petit peu partout? Ah ben ça joue pas que des jeux Game Boy et Game Boy Color qui s'insèrent évidemment dans un port cartouche derrière, ça joue également des jeux Game Boy Advance. C'est compatible avec toute la librairie de cette console-là dès que vous sortez cette machine hors de sa boîte, en tout cas c'est ce que promet Analog avec cette machine. Et également ça permettra de lire des jeux Game Gear, Neo Geo Pocket Color, Atari Lynx et d'autres avec des adaptateurs à cartouche qu'il faudra installer visiblement dans la console ou sur la cartouche que vous souhaitez jouer avec cette machine. Elle sortira en 2020, donc pour l'instant elle est en mode on vient de l'annoncer et on t'enverra un email quand ce sera disponible. Ce sera des quantités limitées histoire de pouvoir un peu exciter la demande et faire en sorte qu'ils rentrent dans leurs frais assez vite. La machine intégrera également un deuxième processeur, je crois, pour pouvoir aider les développeurs à bosser dessus en parallèle. Dispose également d'une suite pour faire de la musique chiptune. On sait à quel point les Game Boy encore aujourd'hui sont utilisés pour faire de la Game Boy, pour faire de la chiptune, de la musique synthétique, la musique électronique avec un cachet bien particulier. Bah là l'idée est vraiment de pouvoir également proposer ça. Et enfin la console sera dockable. Il faut savoir que c'est un port USB-C qui se retrouve en bas de la console pour pouvoir la connecter à un ordinateur ou pour pouvoir la recharger, et eh bien elle pourra également s'installer sur un dock qui lui par contre n'a pas d'année de sortie prévue pour l'instant. Est-ce que c'est parce que il se pose des questions en termes de viabilité commerciale ou est-ce que c'est simplement pour des questions simplement de production, ils sont pas encore sûrs de pouvoir viser la fenêtre de lancement 2020, on ne sait pas, mais l'idée c'est de pouvoir évidemment la brancher à sa télévision ou à son écran d'ordinateur comme une Switch et de pouvoir du coup y jouer sur le grand écran. Niveau spécificité, ça dépote un petit peu. Souviens-toi mon cher Lou, la Game Boy c'était 160 par 144 pixels. La Game Boy originale, ouais. Là on parle d'une machine qui sort du 1600 par 1440, soit 10 fois plus, c'est du 615 pixels per inch, sachant que vos écrans de smartphone sont à peu près à la moitié ça, et pourtant c'est des écrans qui ont aujourd'hui des belles résolutions, un bon nombre de pixels par centimètre. Là c'est encore plus dense, donc on devrait avoir, si tout se scale correctement à l'image, une très très belle, un très très bel affichage du pixel art. Tout simplement, la possibilité de mettre du micro, des cartes micro SD à l'intérieur, la possibilité de brancher un câble jack, donc pour son casque ou pour ses écouteurs en 3,5 mm, donc le truc classique que tout le monde a encore aujourd'hui. Voilà un petit peu pour les spécificités. On n'a pas encore de durée de batterie, mais elle devrait, si tout va bien, être quand même assez puissante, durer assez longtemps. Quand on regarde un petit peu le form factor, normalement, ça devrait être une bête de course, en tout cas, on l'espère. Bref, voilà pour le package, donc 2020 pour 200$, sachant que Analog est connu pour faire du plutôt bon matériel, des différents retours que j'ai pu voir jusque-là, et que vu la technologie qu'ils utilisent, encore une fois, j'ai pas toutes les connaissances techniques, mais visiblement, on est au plus proche d'avoir une expérience, extrêmement fidèle à la console d'origine. Pour pouvoir avoir ces jeux qui s'affichent dans les meilleures conditions possibles. Donc, sur ce délire, est-ce que Lou, elle te donne envie cette machine-là, sachant que c'est pas la seule portable qui donne un petit peu envie à certaines personnes prévues pour 2020. On a également la Playdate de Panic, qui est dans un complètement autre délire. Hein. Il n'est pas question de jouer à d'autres, à des jeux existants, mais bien des jeux inédits qui ont été prévus pour cette espèce de Game & Watch des temps modernes. Et sachant que la Playdate d'ailleurs sera $50 de moins, ça c'est une autre histoire. Donc Lou, qu'est-ce que tu penses de cette Analog Pocket? Est-ce que tu la veux dans ta poche?
Alors écoute, je trouve vraiment que le design est au top, je trouve que c'est un très très bel objet et j'imagine que la prestation est aussi très très agréable, mais écoute, non merci, sauf si tu me l'offres. Non mais en vrai, je sais que c'est...
Patreon.com/blueprint plus et on pourra voir ce qu'on peut faire si les auditeurs suivent.
C'est bien placé. Mais non, parce que je sais que je crois que j'y jouerai pas, en fait. J'ai trop besoin de centraliser, surtout sur le jeu de console portable. Mmh. Et ma portable, c'est ma 3DS. Mmh. Et si je dois centraliser, si je dois prendre une console pour mettre plein de vieux jeux, ça va être plutôt la Switch actuellement, en espérant que la console virtuelle, du coup, s'équipe. Mais je me vois pas avoir plusieurs consoles portables comme ça. Même une petite console comme ça, j'ai pas l'usage, en fait. Je suis pas la cible.
Je trouve ça très tentant. Alors après, je suis également très tenté par la Playdate, et je suis super comment dire, moi les consoles portables en général, c'est vraiment ma cam. C'est le domaine qui me plaît, c'est pour ça que la Switch me plaît beaucoup. Et quand la Playdate a été annoncée, j'étais dès le départ fasciné par ce concept, cette idée de faire des jeux minimalistes, de les distribuer comme ça un par semaine. Enfin, je trouve le concept intéressant, et c'est pour ça que je trouve également le concept de la Analog Pocket intéressant. Personnellement, j'aimerais bien voir un petit peu le truc en action, en vidéo, voir des gens le tester, voir la durabilité, la batterie, est-ce que les boutons ont un bon ressenti, etc. Je trouve qu'en termes de design, effectivement, elle est chouette. Elle s'inspire de la Game Boy Pocket, donc on peut pas faire faux en s'inspirant de la Game Boy Pocket, mm-hmm. à mon avis. C'est un bon design industriel. Maintenant, les boutons Start et Select, je sais pas trop où ils sont. Est-ce que c'est censé être l'un des trois boutons qu'on voit en bas à droite? C'est pas très très clair. Ou est-ce qu'on utilise des boutons qui servent à X et Y? Selon le site internet de l'Analog Pocket, tous les boutons sont remappables comme on veut, donc X peut devenir Start ou droite peut devenir Start également. Tout va bien, on peut faire ce qu'on veut avec. Donc en l'état, pourquoi pas astérisque. Encore une fois, je veux vraiment voir la chose en action. Je trouve quand même les boutons et la croix un peu trop proches du bord de la machine. En termes d'ergo, je me demande exactement ce que ça va donner. Et évidemment, chaque main, chaque paire de mains va être un petit peu différente, va avoir une expérience différente par rapport à tout ça. Mais en tout cas, je trouve le pari intéressant. Je trouve l'idée de montrer les jeux dans une résolution incroyable assez chouette, parce que même si en vrai, il s'agit juste d'upscaler des trucs tout carrés, donc ça fera pas une différence énorme, il se peut que dans certains cas, ce soit juste joli à voir. Je me pose aussi la question, parce que là, on est sur un form factor du coup assez carré, assez 4 tiers, hein, qui est celui de la Game Boy. Comment est-ce que les jeux Game Boy Advance vont être affichés dans un écran carré? Sachant que les jeux Game Boy Advance, ils sont plutôt rectangulaires, hein, dans leur ratio d'image.
Donc, il y aura des bandes sûrement. Hein.
Est-ce que tu le mets au milieu? Est-ce que tu le mets en bas? Est-ce que c'est configurable? Est-ce que tu le mets en haut? Enfin, la question, c'est à quelle verticale de l'écran tu la colles? Et bah, de manière assez pratique, évidemment, il montre uniquement une image qui est native pour la l'écran lui-même, c'est-à-dire il montre que des jeux Game Boy. Et évidemment, là aussi, les images qui sont là, on va pas croire 30 secondes que c'est effectivement l'Analog Pocket qui les fait tourner. C'est un vieux render de la machine en 3D avec rajouté dessus simplement un screenshot, bah, par exemple, de Tetris sur Game Boy. Hein, voilà. Ils se sont pas trop fait, je pense pas qu'ils se sont trop cassés la nénette. Là-dessus, à prendre des vraies photos, évidemment, c'est du render. Je suis intéressé à voir sur les retours, ils ont réussi beaucoup de choses en tout cas avec cette annonce-là. Ils se sont pas trop mis en même temps que la Playdate. Je pense qu'ils ont peut-être dû attendre volontairement parce que ça sert un petit peu les mêmes niches d'une certaine manière, les gens qui veulent avoir une console portable originale. Et puis, enfin. Malheureusement, hein, ma Game Boy Advance a mal vieilli, ma Game Boy Advance SP a mal vieilli, ma Game Boy Micro, elle lit pas les jeux Game Boy normaux, je suis un peu en dèche d'une machine pour pouvoir faire tourner ces jeux-là. Et si ça peut être la solution, c'est tentant, Emilou. Donc, à voir. À voir. Et puis, les possibilités de homebrew, les possibilités de développement, s'il y a des développeurs qui sont intéressés pour se lancer sur la plateforme, ça pourra aussi devenir intéressant. Même si je pense que ça suscite beaucoup moins d'intérêt que l'intérêt très clair qu'on a vu des développeurs indépendants pour la Playdate. Donc, à voir là aussi. En tout cas, si tu veux, je suis à 90% sûr que je me prendrai une Playdate. Je suis à ce stade un peu en dessous de 50% sûr que je me prendrai une Pocket. Parce qu'elle a quand même, enfin, elle a quand même l'air chouette. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui aussi, même si c'est un sujet qui a déjà été assez commenté dans l'actualité du jeu vidéo. L'actualité du jeu vidéo, elle continue si tu le veux bien avec Two Point Hospital. Et oui, petite grève du personnel médical, mon cher Lou, je vois un changement de planning en salle d'opération pour Two Point Hospital, chimie au nom du sang. Que se passe-t-il? Donne-nous un peu d'oxygène, mon cher Lou.
Écoute, alors on va revenir un petit peu sur le jeu, donc qui a été développé par Two Point Studios, anciennement Bullfrog, hein, décidément, c'est un peu comme Plutonic, anciennement Rare, on aime bien les studios qui refont des jeux, mais sous un autre nom, sans dire que c'est trop une copie. Alors c'est un excellent jeu de gestion pour le coup, on en a déjà parlé durant la cartouche. C'est la suite spirituelle en quelque sorte de Thème Hospital, et c'est là ils ont poussé vraiment le concept beaucoup plus loin, et je vous le conseille en tout cas si vous avez un PC, parce que je pense qu'il sera quand même meilleur sur PC en termes de maniabilité. Il y a déjà 3 DLC qui sont eux aussi assez intéressants, un DLC sur des niveaux thématiques de neige, un autre c'est la plage, et le dernier ce sont les aliens. J'ai pas encore pu tester le dernier, mais j'aime beaucoup les approches des deux premiers. Ils arrivent vraiment à renouveler le concept des missions, et puis il y a plein de nouvelles petites maladies rigolotes. J'aime beaucoup l'univers en tout cas, un peu pâte à modeler aussi au niveau des personnages, un petit côté Wallace et Gromit par endroit, j'aime assez. Et donc voilà, il devait sortir en fin d'année sur console, finalement c'est un petit peu trop compliqué pour les développeurs d'adapter ce jeu PC sur les consoles, donc il a glissé jusqu'au premier semestre 2020.
Mais est-ce que tu penses que ce sera jouable sur console, étant donné, on parle quand même d'un jeu de gestion, la complexité de l'interface et des contrôles?
Alors effectivement, juste pour l'anecdote, le premier, donc Thème Hospital, était sorti sur PlayStation avec des graphismes, on va dire, immondes, hein, pour faire très très simple. C'était vraiment une bouillie de pixels, mais c'était relativement jouable. Là, pour le coup, effectivement, la gestion de la manette, c'est toujours un petit peu compliqué. Il y a quand même eu pas mal d'adaptations récemment. Je pense à Civilization 6, Haven Colony, d'autres titres, pardon, encore. Donc, il y a quand même un potentiel, on va dire, c'est, si les éditeurs se mettent à le sortir sur d'autres supports, c'est bien qu'il y a, il y a une demande quelque part, et c'est qu'il y a un retour sur investissement, donc c'est plutôt bien. Je suis très content pour la gestion, mais là, surtout pour la construction et l'ameublement, ça risque de vraiment pas être simple à faire à la manette, encore qu'avec le déplacement à la croix, peut-être un petit peu plus simple, case par case, mais ça risque d'être un petit peu fastidieux. On verra, on surveille. En tout cas, je vous conseille le jeu. Si vous n'avez pas d'autre choix que de le faire sur console, testez. Mais si vous pouvez le faire sur PC, optez plutôt pour le PC.
Très bien. Il y a beaucoup de PC dans ta phrase. Je pense qu'on a compris le message et l'endroit auquel on devrait jouer à Two Point Hospital. C'était rapide, c'était sympa cette petite news comme ça. Moi j'aime bien les petites news comme ça aussi. C'est intéressant, et c'est également intéressant quand on se penche sur Fortnite chapitre 2, parce que derrière le trou noir il se passe quand même des choses un petit peu étonnantes. D'ailleurs t'as suivi, je pense, mon cher Lou,
bien sûr,
la disparition de Fortnite
qui chapitre au-delà, 2
au-delà de l'effet de communication et des 15 000 leaks qui étaient arrivés avant, pendant et après le après l'événement, mon dieu, Fortnite a disparu. Il y avait quand même des petites idées intéressantes, ne serait-ce que dans ce concept-là. Le truc qui m'a le plus plu, c'est pas genre ils jouent au jeu et tout d'un coup, oh, mon dieu, tout est attiré dans un trou noir, c'est fini, vous ne jouez plus au jeu. C'est que les gens qui attendaient dans les menus, qui étaient dans le menu principal de Fortnite quand cet événement-là a eu lieu, ont vu tous les éléments de l'interface être aspirés également par le trou noir. J'ai trouvé que c'était pousser la logique à un point d'élégance extrêmement plaisant. Donc ça voilà, ça c'est une petite parenthèse de ma part. Epic Games, ça fait un très bon job là-dessus. Mais donc Fortnite est revenu, c'est donc chapitre 2, donc une comment dire, en soi on dirait une nouvelle saison, mais en fait non, puisque les chapitres regroupent des saisons. Là je crois que c'était 10 saisons.
Ouais, c'est ça, une saison c'est 70 jours.
D'accord. Là on peut bien comprendre du coup, il y a des passes selon les saisons, donc avec du contenu qui change à chaque fois histoire de faire revenir les gens. Et un des changements dont on n'a pas trop parlé de Fortnite, donc avec ce chapitre 2, au-delà de la pêche, enfin il y a plein de petits ajouts, évidemment la nouvelle carte. Enfin, il y a plein de petites choses. Un truc qui est intéressant et qui est pas intéressant d'ailleurs que pour les joueurs de Fortnite, c'est pour ça que j'en parle ici, parce que je suis pas vraiment un joueur de Fortnite, Lou toi non plus. C'est un phénomène qu'on peut pas vraiment ignorer, mais voilà. Mais il a une influence et Fortnite fait précédent sur les jeux de son genre et en général sur les jeux en ligne. Et ce qui est intéressant, c'est bien un tweet de Daniel Amad que j'ai découvert ça. C'est que Fortnite expose désormais, et ce sur toutes les plateformes, pas uniquement sur mobile, les nouveaux joueurs à des bots jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment bons. Ce qui est un mécanisme qu'on avait déjà vu sur PUBG mobile, ce qui est un mécanisme qu'on voit de plus en plus en fait dans les jeux du genre. Et je voulais te poser la question aujourd'hui, mon cher Lou, est-ce que toi tu apprécies, est-ce que tu trouves utile ces fonctionnalités sur ce genre de jeu-là, les jeux qui sont prioritairement en multi, pour pouvoir un petit peu s'entraîner?
Ben, je suis très interrogatif en fait, j'arrive pas à avoir d'avis. En un sens, je trouve que c'est bien pour s'entraîner justement, acquérir le bon niveau, tout ça, c'est formateur. Mais en même temps, Si tu veux jouer contre des humains, c'est quoi l'intérêt de te retrouver contre des bots, en fait, au final? Si tu veux jouer contre des bots, tu mets un mode contre une IA. Du coup, je sais pas, je suis assez perplexe. Et en même temps, c'est peu gratifiant de se dire, ah bah tiens, je gagne. Enfin, le principe d'un Battle Royale est de dire, bah non, c'est que contre des bots. Enfin, ça perd en fait de son côté justement multijoueur. Enfin, les 100 joueurs, il y a un côté très excitant, tu vois. Un contre 100, le mur. mais là, du coup, voilà, je comprends que l'intention est bonne, mais le résultat, je sais pas, quel est ton point de vue, toi? Moi, j'arrive vraiment pas à me décider.
Ça a un côté un petit peu rassurant, je trouve, quand tu commences un jeu et t'as pas envie de tu te dis, si je vais perdre, au moins je vais perdre contre des bots, ce sera pas aussi catastrophique que perdre en niveau devant des êtres humains, hein, et gagne des points de vie, et gagne des points d'expérience grâce à moi, etc. Enfin, il y a une vraie logique que je comprends là-dedans. Je pense que ce serait intéressant que ce soit désactivable pour les joueurs qui savent vraiment où ils en sont. J'ai commencé à jouer à Overwatch sur ma Switch, qui est un portage OK. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus. Hein. Les gens font tout un fromage du fait que c'est 30 images par seconde. On savait que ça allait être 30 images par seconde. On savait du coup que bah, si c'est un jeu à 30 images par seconde, la visée ou gyroscope allait en prendre dans les dents en termes d'utilité et de fluidité. Bon, voilà, c'est comme pour Doom sur Switch, c'est le même problème. Donc pas beaucoup de surprises là-dessus. Et moi, ça me plaît d'y jouer là-dessus. Je vois pas trop la différence puisque j'ai pas joué à Overwatch sur d'autres supports. Donc bon, parenthèse fermée. Mais je joue donc à Overwatch sur Switch et l'entraînement naturellement te propose de jouer contre de l'IA. Mais en fait tu fais une équipe de vrais gens contre des ennemis IA pour t'entraîner. Et je trouve que c'est un bon compromis dans Overwatch parce que c'est clair en fait, parce qu'on te dit vas-y, entraîne-toi et quand tu te sens suffisamment de niveau, va jouer en classique. À jouer une partie normale contre des vraies personnes. Je trouve ça intéressant. C'est accouplé avec un vrai matchmaking, évidemment, pour faire en sorte de te mettre face à des débutants quand enfin tu décides de jouer. Mais je trouve que c'est le genre de choses qui devrait, comment dire, se populariser dans ces gens-là. D'autant plus quand on pense au jour où, bah, je sais pas, Overwatch 2 sort, ou Fortnite 2 sort. Je suis caricatural, Fortnite est un jeu comme un service, donc normalement on n'aura pas de Fortnite 2 qui sortira, mais je prends ça comme exemple relatif, où Team Fortress 3 sort. C'est bien d'avoir un mode avec des bots simplement pour laisser quelque chose à jouer pour les gens qui ont le jeu, pour qu'ils gardent encore un petit peu de valeur aux joueurs qui l'ont acheté ou qui ont investi du temps, de l'argent dans des microtransactions. Ça, c'est un petit point. Donc déjà, je trouve ça appréciable simplement pour garder un petit peu de valeur au jeu et également pour pouvoir permettre aux gens de s'entraîner, on va dire, sans conséquence sur leur profil de joueur ou ce genre de choses. Ou même sur psychologiquement, sur est-ce que j'ai le droit ou non de faire des erreurs, sachant qu'il y a un vrai humain en face de moi. C'est assez psychologique, mais je pense que ça peut jouer un rôle. En tout cas, ça joue un rôle en ce qui me concerne. J'ai tendance à réfléchir un petit peu comme ça. Donc, voilà pour ma réponse. Ils sont bienvenus, mais peut-être pas les forcer autant à travers la gorge des gens. Tout simplement. C'est-à-dire pas en faire un par défaut et tu peux pas sélectionner ensuite, comme malheureusement Fortnite le fait en te disant pas en fait que tu joues contre des bots ou te le cachant un petit peu. Est-ce que tu trouves que ce serait une différence, comment dire, un changement à faire, un changement équilibré par rapport à ton interrogation?
Ouais, je sais pas. Moi vraiment, c'est vraiment le concept de base, tu vois. Enfin, de dire tu remplaces. Alors c'est pas, tu remplaces l'humain par un bot. C'est juste que tu te confrontes pas à la bonne difficulté. Enfin, tu vois, c'est comme si tu jouais. Tu te souviens d'un contre 100. Enfin, je disais pour la blague tout à l'heure, mais sur Xbox 360,
oui,
ça fonctionnait, mais parce que tu savais que t'avais 99 autres joueurs humains avec lesquels tu étais en compétition, tu vois. Tu te plaçais vraiment avec des gens et ça c'était extrêmement fort et du coup ça manque liquide en fait, je crois, au final ce concept.
Bon, bien. Eh ben écoute, là aussi avis nuancé dans cet épisode de la cartouche. Lou, deux créateurs de jeux japonais géniaux, s'allient pour la première fois et le résultat risque d'être aussi dingo-dingue qu'effrayant.
Effectivement, on peut sortir le point zinzin. Ah. D'un côté, nous avons Suda 51, donc à qui l'on doit Killer 7 et No More Heroes. Et de l'autre, nous avons Swery 65, à qui l'on doit notamment Deadly Premonition, que j'avais beaucoup apprécié. Plus pour son univers que pour son gameplay, effectivement, mais bon. Eh bien, les deux vont s'allier pour la toute première fois et ils nous proposent Hotel Barcelona, un jeu horrifique, inspiration un petit peu Forbidden Siren pour les plus vieux, du coup, qui s'en souviennent, il y a plus de 10 ans, je pense, qu'on n'a pas vu cette licence, malheureusement. Alors, ne vous fiez pas au titre, On ne sait pas du tout où ça se passe. Hein. C'est pas forcément la Catalogne. C'est parce que c'est Hotel Barcelona que ça va se passer forcément en Espagne. On ne sait pas trop. D'ailleurs, je pense que les créateurs eux-mêmes ne savent pas trop non plus ce qui va en être au niveau du jeu. Ce qu'ils savent, en tout cas, c'est qu'ils veulent s'inspirer de Twin Peaks. Bah tiens, c'est plutôt logique quand on a joué à Deadly Premonition. À la base, c'était même presque un rip-off de Twin Peaks. Ils ont dû redriver un petit peu le projet pour que ce soit un petit peu plus différent dans Deadly Premonition. Là, à nouveau, inspiration de Twin Peaks, mais la saison 3, très précisément, celle qui est sortie il y a seulement quelques années. C'est peut-être pas la meilleure, mais bon, on verra bien le résultat final. Ils veulent aussi partir sur relier en fait plusieurs chronologies entre elles, donc avoir un jeu sur le temps, l'espace, tout ça. Il y avait eu pas mal de jeux essayés comme ça. Moi, ça m'intrigue, ça m'interpelle. J'ai vraiment envie de voir ce que ça va être. Alors, pour l'instant, aucune plateforme, hein, c'est le flou le plus total. Et a priori, ça pourrait être Devolver, mais c'est pas sûr. Je sais pas si t'as des petites infos de ce côté-là, toi, de ton côté.
Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, Devolver, il y a plein de trucs surréalistes par rapport à l'annonce à la conférence d'annonce de ce jeu-là, parce que déjà dans un premier temps, ils ont annoncé donc que Devolver sortirait le jeu pour eux sera à l'édition. Et pour le coup, comment dire, Devolver a tweeté, ben on savait pas. Devolver Digital a fait, ah bah en fait non, on n'était pas au courant et du coup on aimerait bien en savoir plus sur le projet, on aimerait bien se rencontrer pour pouvoir voir si c'est possible. L'autre point surréaliste de cette conférence de presse, c'est qu'ils ont littéralement sorti leur téléphone en pleine conférence de presse pour demander à Keiichiro Toyama, qui est le créateur de Silent Hill et de la série des Siren, pour savoir s'il souhaitait collaborer sur le jeu. Il leur a répondu non, oui au téléphone, j'ai failli dire non, oui au téléphone, mais c'est une manière bien étrange de conduire ses affaires. Alors évidemment, on peut supposer que dans un cas et peut-être même dans l'autre, c'est-à-dire en tout cas dans le cas du créateur de Silent Hill et peut-être même dans le cas de Devolver, c'est juste une pirouette de com pour pouvoir faire parler du jeu. C'est possible. Mais ça jette en tout cas quelques doutes et c'est un point à ajouter à la longue histoire des conférences de presse étranges dans l'industrie du jeu vidéo, dont d'ailleurs le Japon n'est pas le dernier pour nous en fournir des bien belles.
En même temps, c'est raccord avec aussi bien avec Devolver qu'avec Suda et avec Swery, en fait, au final. Tu vois, c'est un petit peu, c'est le truc un petit peu, c'est le projet créatif complètement fou. Et moi, c'est ce qui m'interpelle aussi au niveau de ça, c'est qu'à mon avis, on va avoir un truc très atypique, peut-être mal branlé, il faut le dire, mais sûrement un ovni avec, je pense aussi, des choses qui vont être testées en termes de game design, en termes de gameplay, en termes de plein de choses. Donc ce sera à surveiller. J'espère qu'ils réussiront à transformer l'essai. C'est pas dit, mais voilà, je pense qu'il faut quand même surveiller ça.
On le gardera dans le viseur. Et voilà, c'est l'heure du calendrier de la cartouche. Les prochaines sorties du 26 octobre au 8 novembre 2019. Mon cher Lou, es-tu prêt ?
Ah, il vaut mieux être prêt parce qu'il y a du lourd qui se prépare.
Exactement, Luigi's Mansion 3.
Oui !
Jeu d'exploration puzzle de Next Level Games comme le 2 sort le 31 octobre sur Nintendo Switch. Après, un épisode 2 qui était sorti sur Nintendo 3DS et un premier épisode qui était sorti sur GameCube. Red Dead Redemption 2, un jeu d'open world à cheval. De Rockstar Studios sort le 5 novembre sur Windows 10. Il est déjà disponible sur PlayStation 4 et Xbox One. Death Stranding, le saviez-vous ? Death Stranding sort véritablement et est vraiment un jeu vidéo. Un jeu d'open world post-apocalyptique de Kojima Productions. Je mange mon chapeau. Il sort donc sur PlayStation 4 le 8 novembre. Moi qui pensais qu'il serait repoussé pour la prochaine génération de consoles, me voilà fort mari.
Tu m'as eu.
Je me suis fait eu. Et enfin, Need for Speed Heat. Alors tu vois, ils sont vraiment en mode, mais H-E-A-T, hein, pas Heat, H-E-A-T comme Hitman, Heat comme la chaleur. Un jeu de course développé par Ghost Games, qui ont d'ailleurs développé les trois derniers Need for for Speed, ce qui vous dit, je pense, que vous avez envie de savoir si vous les avez appréciés ou si vous ne les avez pas appréciés. Comme ça, vous savez à quelle enseigne vous êtes. Sort le 8 novembre sur Windows 10, PlayStation 4 et Xbox One. Voilà pour, on va dire, les grosses sorties des deux prochaines semaines, évidemment. Je fais exception. On revient dans une période où il y a un peu plus de jeux qui sortent, un peu plus de jeux intéressants qui sortent, après une petite pause qui elle-même suivait un énorme moment septembre, début octobre, qui était vraiment, vraiment chargé à donf. On passe maintenant au bon tuyau, les articles, les vidéos, les émissions qu'on vous recommande et qui font le jeu vidéo d'aujourd'hui. Lou, tu commences avec du Pokémon, attraper les tous.
Pas forcément du Pokémon.
Parce que j'ai marqué évolution dans la description, alors... je me suis dit là tout de suite.
Et non, mais pas pour une fois, c'est même pas du Pokémon. Tu vois, non, c'est Prozafia Gaming. Alors, c'est une chaîne qui est assez connue parce qu'il y a plus de 2 millions d'abonnés. Ouais. Une chaîne YouTube. Et c'est plein de vidéos différentes sur les jeux. Il y a des choses très basiques, comme par exemple des évolutions de personnages, justement.
C'est une de ces chaînes. C'est une de, alors, ça c'est fondamental. Enfin, vas-y, explique là, mais c'est une de ces chaînes, effectivement, d'évolution avec tous les jeux Mario Kart avec 2 minutes de gameplay par jeu.
Exactement. Et alors, sur le fond, c'est pas forcément hyper, hyper fascinant, mais j'aime beaucoup, justement, suivre ça. Et surtout, la différence d'autres chaînes, ils ne font pas de putaclic, c'est-à-dire qu'ils font des vignettes correctes et ils insèrent pas des trucs de fan.
Tu dis ça, je fais face à un Sans et Papyrus dans Super Mario Odyssey, donc c'est pas très legit. Hein.
Ouais, bon.
Il y a quand même du modding.
Il y en a qui font pire. Il y a Nintendo Unity, par exemple, qui m'agace profondément parce que, clairement, au niveau des vignettes, voilà, on t'intègre des personnages qui n'ont jamais existé dans des jeux Nintendo et on te le fout comme ça, mais bon. Prozafia, c'est plutôt bien fait et t'as plein d'images. Des fois, ils te reprennent toutes les cinématiques de tel jeu, tout ça. Donc, c'est une manière, c'est une espèce de bibliothèque, en fait.
C'est une bonne ressource quand on fait de la recherche autour d'un jeu. Ça, c'est clair.
Exactement. Et si tu veux te replonger au niveau, vidéo, au niveau des cinématiques, au niveau de l'évolution dans une licence et que t'as pas envie de te retaper tous les jeux et là, ça centralise. Et c'est vraiment, c'est du brut, hein. C'est-à-dire qu'il y a pas de commentaires, tout ça, en général. Donc c'est juste que voilà, c'est ta matière et tu t'ouvres ça comme si tu ouvrais un bouquin en quelque sorte. Et voilà, de temps en temps je vais voir ce qui se passe. Ça me rend heureux.
Du coup, je vais recommander, je vais vite la rechercher dans YouTube. Je vais recommander une vidéo de Nathaniel Bundy qui fait habituellement des vidéos assez moyennes. Hein, je dois le dire, mais qui a fait une vidéo sur les chaînes YouTube qui voilà justement upload en majorité des trailers, des vidéos de compilation, ce genre de choses là. Et pour certaines de ces personnes-là, c'est genre, c'est leur vie, quoi. C'est vraiment intéressant de voir un petit peu comment est-ce qu'ils pensent la stratégie de ces chaînes, ce qu'ils en font, pourquoi ils l'ont créé, comment ça marche pour eux, est-ce qu'ils en vivent, etc. Ça s'appelle Secret Nintendo Kings of YouTube. C'est une vidéo de Nathaniel Bundy et elle est vraiment, vraiment chouette et elle permet de mettre un peu en contexte la recommandation de Lou, du coup. Sinon, j'avais deux vidéos et je pense qu'elles vont te faire plaisir. L'une qui est simplement une question de design et l'autre qui est une question de technique. Les deux concernent la Nintendo 64, qui est une console qu'on porte tous les deux dans nos cœurs.
Bien sûr.
La première, c'est pourquoi est-ce que un tiers des logos 3D de la Nintendo 64 dans les jeux 64 sont faux quand ils tournent. C'est super intéressant. Je vais vous le résumer très rapidement. Le logo Nintendo 64, qui est donc un logo un N en 3 dimensions à 4 faces, a un choix très spécifique de couleurs. Le problème, c'est que comme la plupart des développeurs avaient surtout une base 2D pour déterminer quelle couleur était où en profondeur, eh bien certains ont fait l'erreur de mettre du bleu là où il devait y avoir du rouge. Et donc, ce YouTuber a fait la liste de tous les jeux Nintendo 64 qui montrent ce logo en train de tourner et montre en fait lesquels soit tournent dans le mauvais sens, soit ont pas la bonne couleur et c'est assez amusant. L'autre, c'est une vidéo de MVJ qui fait beaucoup de vidéos un peu technique sur l'émulation, le pouvoir des consoles, etc. Donc Modern Vintage Gamer, c'est quelqu'un qui aime beaucoup porter Doom sur des supports improbables. Et sa vidéo, il fait vraiment de très chouettes vidéos dans le domaine, et sa vidéo concerne l'émulation de la Nintendo 64 et comment est-ce qu'un émulateur Ultra HLE dont la distribution a été très courte dans le temps a révolutionné l'émulation de la Nintendo 64 alors même que la console était encore dans le commerce, à une époque où Internet était certes présent, certes un petit peu développé, mais n'était pas le phénomène et le média, le moyen, la technologie qu'on connaît aujourd'hui. Donc allez voir ça, tout ça est en anglais, mais tout ça vaut vraiment vraiment le coup par rapport à les différents sujets qui sont traités. J'espère que ça te plaira, en tout cas Lou, je te les recommande très très chaudement, déjà à toi mais évidemment aussi à nos auditrices et nos auditeurs. On continue avec un peu de suivi si tu le veux bien.
Bien sûr.
Et Kawashima, un jour après, voire même le jour même où on publie l'épisode précédent où on parlait de l'annonce du nouveau jeu Kawashima au Japon, eh bien voilà, le programme d'entraînement cérébral sera également de retour en Europe. Je crois pas encore qu'il ait été annoncé pour les États-Unis. Ça, c'est intéressant. Encore une fois, les États-Unis chez Nintendo ont parfois un petit peu de retard par rapport au Japon et à l'Europe. Il sera bien traduit en français. Il sortira bien en version boîte avec le stylet, en plus de sortir en démat sur l'eShop, et il sortira, accroche-toi bien mon cher loup, le 3 janvier 2020,
ah.
Ce qui est une des dates de sortie les plus couillues que j'ai vues depuis très longtemps. Ouais. C'est les boutiques rouvrent le 2, et toi tu sors le jeu le 3, parce que...
Ouais. Bah, puis, vu le nouvel an qui vient de passer, à mon avis, quand tu commences le jeu, tu commences à 90 ans, hein, le temps de te remettre de tout l'alcool que t'as ingéré.
Et les 30 kilos de gras pris avec les différents repas, évidemment. Donc non, voilà, on en parlera. On en fera le test dans la cartouche, c'est promis. Mais voilà, pour vous dire, ça sortira bien dans nos contrées. Zitoun nous fait également du suivi en nous demandant, en nous disant plutôt, pour en revenir aux baisses de framerate, et là il fait référence à Zelda Link's Awakening sur la Switch dont on a parlé il y a un ou deux épisodes, peut-être nous ne sommes pas tous sensibles au même niveau. Mon fils de 9 ans les ressent alors qu'il joue sur sa Switch avec le même jeu des maths. Peut-être est-ce dû à mon âge ou à mon expérience ayant connu l'époque des 8 bits, mon cher loup.
Alors non, parce que j'ai connu l'époque des 8 bits, donc il y a pas de je vois très bien les baisses de framerate de Zelda Link's Awakening qui pour le coup pour moi sont extrêmement marquants. En plus c'est difficile de passer à côté. Non, je pense qu'il faut simplement être exigeant. Je sais pas si humainement il peut y avoir des disparités à ce niveau-là. Peut-être que c'est une question de faire moins attention en fait, mais en tout cas n'ayons pas peur d'être exigeant avec la technique, hein. C'est faut pas se contenter de parce que la discussion a un petit peu suivi du coup avec Zitoun après sur Twitter où il disait qu'en gros bah il a connu tellement pire que ça le choque pas. C'est pas une raison. N'ayons pas peur d'être exigeant justement avec les jeux et c'est pas parce qu'il y a pire qu'on n'est pas en droit de demander mieux s'il y a des petits défauts.
En d'autant plus dans nos activités, dans nos métiers, dans nos loisirs évidemment où nous commentons le jeu vidéo assez régulièrement et en public. Là-dessus, ce que je voulais faire remarquer, oui, c'est probablement la seule explication possible que je vois, c'est simplement une question d'habitude et d'intérêt. En vérité, à ce genre de questions-là, il y a bien des gens qui utilisent des smartphones alors que l'écran est complètement pété, et pour eux, c'est pas vraiment un problème, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Donc je pense que ça tire en fait ses racines au même endroit de est-ce que tu prêtes un intérêt à ça? Dès lors que tu prêtes un intérêt à ça, dès lors que tu te dis j'aime bien la meilleure performance possible, j'aime bien que ce soit smooth, etc. Tu n'en ressors pas, c'est le piège dans lequel tu tombes et malheureusement les murs sont tellement lisses que tu ne peux pas remonter. C'est terrible. Yamashita Atsushi nous dit, c'est encore du suivi, dans le dernier podcast, vous demandiez s'il y a des pompages qui sont mieux que les originaux, beaucoup de fake jeux Pokémon, nous dit Yamashita, du style des MMO, sur Android, sont largement mieux et plus ambitieux que ceux de la licence officielle, attention je parle bien de mobile. Lou.
Alors, je connais pas très bien justement les jeux sur mobile de Pokémon, je dirais juste qu'au niveau des fangames, il y a aussi beaucoup de choses qui sont totalement incohérentes selon moi vis-à-vis de la licence et qui respectent vraiment pas l'univers, ça je trouve ça vraiment très dommage. En revanche, il y a des choses extrêmement intéressantes, des jeux très très bien conçus.
Il y a des remakes très créatifs, y compris dans le monde, dans l'univers Pokémon d'ailleurs.
Tout à fait. Alors souvent, moi, ce qui me déçoit en général, c'est quand ils veulent faire un truc hyper adulte avec du sang, des morts, des assassinats. Et juste, c'est bon, les mecs, maturité, ça égale pas non plus ça. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, arrêtez avec vos complexes. Pokémon, c'est très bien.
Faisons le 16. Non, c'est bon, y a pas besoin.
on peut survivre en jouant à Pokémon à 33 ans, je vous assure. Mais alors, par contre, on voit des choses absolument génial, notamment par exemple l'idée des Pokémon existant sous un autre type qu'on a vu dans la licence canonique, donc avec les formes d'Alola, les formes de Galar, etc.
L'arrivée du type fée qui a reclassé certains Pokémon également.
Ouais, alors non, là c'était vraiment des formes alternatives en fait plutôt.
Ah d'accord, ok.
Et là c'est dans un fan game alors ultra bien vraiment que j'ai complètement oublié le nom malheureusement et ça a été fait avant en fait l'idée était venue avant dans ce fan game et je me souviens notamment je crois qu'il y avait un Ronflex de type plante parce que il s'était tellement endormi qu'il y avait des plantes qui avaient poussé sur lui et du coup il y avait aussi peut-être un Bulbizarre de type sol, enfin voilà, c'était extrêmement inventif et graphiquement ça respectait vraiment les codes de Pokémon. Alors si vous rappelez de ce jeu, dites-moi le nom justement, venez m'alpaguer sur Twitter pour me dire c'est tel jeu Pokémon, parce que j'aimerais bien me repencher dessus et peut-être pourquoi pas le faire d'ailleurs, mais en tout cas c'était dingue le fait d'avoir été visionnaire à ce point, et ça se demandait même si Game Freak n'a pas été inspiré par ce fan game pour créer les formes d'Alola et maintenant de Galar.
Et pour revenir plus largement sur la réaction de Yamashita, oui, enfin voilà, c'est, pour moi, c'est, il y a certains fan games qui peuvent être plus intéressants, mais qui, tu le disais aussi Lou, ont tendance à prendre des libertés qui sont malheureuses. Et on n'est jamais mieux, je pense, dans un univers créatif que dans un monde de contraintes ou dans un monde de conditions. J'ai souvent pensé ça, et je trouve justement que le risque d'un fan game, le risque d'un jeu non officiel, c'est de dire à mort les conventions, à mort les contraintes, on va faire ce qu'on veut, et au final tu perds le sel soit du genre, soit de la licence dans le truc, ce qui fait très souvent que en collant à des bibles, en collant simplement à des logiques mises en place par des responsables de développement, des réalisateurs, etc., les jeux officiels s'en sortent beaucoup mieux naturellement que des jeux sortis par des amateurs, sortis par des fans. Il y a quelques exceptions, l'une d'entre elles étant Sonic, qui est une exception comment dire, énorme aujourd'hui, avec Sonic Mania, mais c'est la seule exception que je connaisse. Et voilà, Sonic Mania peut-être est la glorification du fan game devenu jeu officiel. J'ai d'autres noms de jeux Sonic d'ailleurs faits par des fans qui sont restés uniquement des fangames, qui sont intéressants, et j'espère qu'on pourra les explorer peut-être dans quelques mois dans la cartouche, si jamais on a le temps, parce que c'est des jeux qui ne vieillissent jamais vraiment, parce qu'ils sont déjà dans une sorte de time capsule et qui sont intéressants à explorer. Bref, ce sera peut-être pour une prochaine fois, peut-être même pour un épisode un peu spécial de la cartouche rétro, je sais pas, on verra exactement ce qu'on voudra faire de ce côté. Robin, alors, Robin, petit préambule avec son message, qui a également du suivi, mais cette fois-ci par rapport au Joy-Con de la Nintendo Switch et du Drift. Je tiens à préciser maintenant, hein, ce que je m'apprête à lire, c'est la solution d'un auditeur, on l'a pas essayé, on n'est pas responsable pour d'éventuels dommages sur votre matériel. Globalement, officiellement, faites ce que vous êtes censé faire avec votre garantie, sinon vous allez avoir des problèmes, potentiellement. Donc ça, c'est le petit préambule pour vous. Donc salut l'équipe, dit Robin, je réagis par rapport au Joy-Con Drift de Yann, je suis exactement dans le même cas que toi, le stick gauche m'a lâché un peu après les 2 ans de ma console, donc pas de retour SAV gratuit envisageable. Étant adepte du foutu pour foutu et n'ayant pas envie de payer la réparation assez chère chez Nintendo, j'ai trouvé une solution qui jusqu'à présent a l'air d'être durable, un peu de VD40 sur les contacts en passant sur le caoutchouc de protection, sous le caoutchouc de protection bien sûr, parce que sinon on peut pas passer, bien remuer le stick et laisser sécher quelques jours en remuant et essuyant régulièrement l'excédent. Le caoutchouc va se détendre un peu mais reprendra sa forme initiale une fois le tout complètement sec. Ça fait quelques mois maintenant et tout fonctionne de nouveau parfaitement, d'autant que c'est toujours ma paire de Joy-Con principale et que j'utilise ma Switch très régulièrement. J'espère que cette solution pourra éviter à un maximum de personnes de payer la réparation ou pire encore de se débarrasser du Joy-Con défectueux au profit d'un neuf. Et ensuite, il nous fait des jolis compliments pour le podcast. On le remercie pour ça. Voilà. Lou, tu as juste dit merci dans le...
Merci. Merci. Écoute, voilà. Merci. Bah, il a fait la bise, il a dit qu'il nous remercie, donc je le remercie aussi.
Fantastique. On passe à Raphaël dans le courrier qui nous dit merci pour votre émission. Donc du coup, merci Raphaël. Je vous écoute à chaque nouvel épisode. Oh, c'est incroyable. Recommandé par Escarina de Super Gamerside. Ah, oh, incroyable. Il est désormais un patron. Ah, oh, incroyable. Et il nous dit alors voilà, ma femme et moi, nous préparons déjà Noël et cette année de Noël sera synonyme de Switch. Ma dernière console Nintendo était la Wii et depuis je suis complètement largué. Du coup, j'aimerais savoir ce que vous me conseillez comme achat pour notre famille. Nous sommes 2 parents, 2 enfants en âge de jouer, 6 et 7 ans. La dernière a 3 ans, donc elle attendra un petit peu. Elle attendra la Switch Pro. LOL. On veut pouvoir jouer à 4, donc j'avais pensé à du Mario Kart. Y a-t-il autre chose? Mario Party. J'aimerais pouvoir aussi jouer de mon côté quand les enfants dorment. Et pour l'instant, je sais que je vais faire Breath of the Wild. Et ça va te prendre un certain temps déjà. Mais y a-t-il d'autres choses à ne pas rater? En termes d'accessoires, conseillez-vous d'acheter une autre paire de Joy-Con pour jouer à Breath of the Wild? Conseillez-vous une manette pro ou la classique? Est-elle suffisante? Autre chose auquel penser? Merci d'avance, Raphaël. Alors, Lou, qu'est-ce que tu recommandes?
Alors, on va commencer par les grands quand même, parce que c'est important de penser à soi en premier. Donc, pour papa et maman, Smash Bros, hein, clairement. Moi, j'aime tellement ce jeu. Alors, c'était vraiment des recommandations sur mes goûts aussi. Donc, après, faut adapter aussi en fonction. Hein, mais moi, ça fait partie des incontournables. Effectivement, Mario Kart aussi, bien sûr. Hein, mais faut pas oublier Smash Bros. Et pour tout le monde, pour jouer en famille, Mario Odyssey me paraît là aussi un incontournable. Je rappelle qu'on peut jouer à deux. Si effectivement, ils n'arrivent pas trop à manier Mario, que c'est un petit peu trop compliqué, la 3D, tout ça, bah, ça peut être papa ou maman qui fait Mario et l'enfant gère Capi. Et ça se fait très bien. Je suis en train de le refaire avec mon copain, du coup. Et c'est moi qui vais faire Mario au bout d'un moment parce que c'est un peu compliqué. mais voilà, c'est vraiment un super jeu et tellement fluide, tellement bien, tellement intéressant, tellement joli. Je le conseille. Je conseille aussi New Super Mario Bros. U Deluxe, du coup, hein, puisque comme il y a eu l'impasse sur la Wii U, ça peut être sympa de le refaire. Je trouve que c'est vraiment un bon épisode en 2D. Et en plus, on peut y jouer jusqu'à 4. Donc ça, c'est très très bien. Et bien sûr, Pokémon. Donc là, je vous conseille Épée Bouclier ou Let's Go parce que Pokémon. Voilà, tout simplement. Et toi, tu conseilles quoi?
Alors, mon cher Raphaël, je vais essayer de te recommander seulement deux titres, hein, influencés par mes goûts. Il y a beaucoup plus dans la librairie Switch et je te conseille d'explorer l'eShop, d'en regarder un petit peu les soldes et te calibrer en fonction de ça. Mais donc, pour toi, déjà, pour commencer, comme le dit Lou, c'est pas grave d'être un petit peu égoïste pour commencer. Splatoon 2, c'est de la super bonne cam, surtout si tu n'as pas eu de Wii U, donc t'as pas fait le premier, donc je te recommande si le genre t'intéresse. Super Mario Odyssey, pareil, c'est une perle, et y compris pour y jouer seul. Cadence of Hyrule est un des quelques jeux inédits de la Switch, comment dire, que je m'attends vraiment pas, enfin comment dire, qui ont un concept qui normalement aurait dû sortir sur d'autres consoles, mais qui par le fait que c'est la licence Zelda ne pourra pas. Donc c'est un des jeux, on va dire, les plus Switch que tu puisses trouver. C'est vraiment la quintessence de la console en quelque sorte. Donc Cadence of Hyrule, c'est une valeur sûre. Et pour la famille, Rayman Legends est également un bon pari pour pouvoir faire un petit peu de plateforme à plusieurs. Tu as également New Super Mario Bros. U, mais je le trouve moins élégant, moins impressionnant visuellement. C'est pas une création française. Enfin voilà, c'est des petits trucs comme ça. C'est chouette New Super Mario Bros. U. Je l'aime beaucoup. Je suis en train de le refaire en ce moment. Enfin, je l'apprécie, mais si tu dois en acheter qu'un entre les deux, je dirais plutôt Rayman Legends, si tu ne l'as pas fait sur un autre support. Et puis, Super Smash Bros. Ultimate, en multi, peut être quand même approché par un petit peu tous les âges, simplement se pousser en dehors du niveau avec les objets, c'est rigolo. Il y a une gigatonne de contenu déjà sans le DLC. Avec le DLC, c'est encore une autre histoire. Bref, voilà. Concernant Mario Party, on a tout un épisode, enfin tout un dossier consacré à ça dans un précédent épisode, donc consacré à Super Mario Party sur Switch. En deux mots, c'est un épisode chouette, hein, pas le podcast, hein, mais le jeu, mais un peu avare en contenu. La manette pro est super confortable, bonne batterie. Si tu veux, vas-y. Enfin, si tu le peux, en tout cas, en termes de ressources. Par contre, si le but, c'est simplement d'avoir suffisamment de manettes pour 4 joueurs et que tu dois choisir entre l'un et l'autre, évidemment, une paire de Joy-Con sera la solution la plus efficace pour faire ça. Pour jouer en portable, je te recommande quand même d'acheter une brique de charge, un câble avec brique pour recharger en plus. Simplement parce que débrancher celle de ton dock sera vite pénible. Et enfin, toujours pour le mode portable, si tu prends le train régulièrement ou ce genre de choses, un vrai trépied pour pouvoir le poser sur un bureau ou sur une tablette de train ou ce genre de choses, ça vaut vraiment le coup. J'ai celui de Ori qui a également co-signé par Nintendo avec un petit saut de qualité, et il fait très bien l'affaire, voilà. Est-ce que tu partages mon avis sur les accessoires d'ailleurs, Lou? Est-ce que tu les vois comme extrêmement secondaires finalement?
Ah oui, moi je suis plus très accessoire, tu vois. Autant ça m'avait amusé sur Wii. Maintenant, ça a plutôt tendance à m'agacer. J'ai même, par exemple, fait totalement l'impasse sur Nintendo Labo, tu vois, donc genre de truc.
Oui, effectivement. Je peux comprendre. D'ailleurs, Ring Fit Adventure, c'est le truc le plus surprenant du monde. Un jour, je suis allé en magasin, j'ai vu Ring Fit Adventure sorti. Je me suis dit, ah bon, il est sorti. Ouais. Je trouve que la campagne de pub est vraiment pas à la hauteur de ce titre grand public. Peut-être qu'ils vont essayer de bourrer pendant les fêtes de fin d'année.
Ouais, après je pense que c'est assez global, hein. Je pense que le phénomène est retombé tout simplement et que ça intéresse moins. Parce qu'on a vraiment eu tout pendant l'époque Wii. Du coup aujourd'hui, parce que du jeu quoi.
Du peu que j'en ai vu, j'ai vu Alpharad, le youtubeur Alpharad y jouer, ça a pas l'air mauvais. ça a l'air de mieux remplir l'objectif que Wii Fit, si tu veux, mais je vois vraiment pas la com qui est censée aller avec, que ce soit en télé, en presse, en PLV, n'importe quoi, quoi. Enfin, je suis surpris de pas les voir pousser le jeu plus que ça, à part sur le web. Donc, un peu perplexe pour le coup. Mais bon, affaire à suivre là aussi. Peut-être qu'on aura un petit blitzkrieg de fin d'année pour le Black Friday et pour Noël. Ben voilà, pour cette semaine, la cartouche c'est terminé. Vous pouvez nous écrire sur Twitter @lacartouchebp et lacartouche@blueprint.pm. Cet épisode a été enregistré le 23 octobre. Merci à toi Lou, @AlexLeServeur sur Twitter.
Merci beaucoup à toi Yann, @InksHD sur Twitter.
Merci à Cédéto pour le logo, BenjiPesque pour l'habillage. Merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez nous soutenir, nous aider dans la production de ces podcasts, patreon.com/blueprintplus. Rendez-vous dans deux semaines pour la cartouche et dans moins d'une semaine, le mercredi 30 pour la cartouche rétro numéro 3. À bientôt, ciao ciao.
Salut.
Salut Mathieu.
Salut Yann.
On fait un podcast ensemble, il s'appelle Mactou, et j'ai un peu oublié, tu vois, de quoi ça parle?
Eh bien ça parle d'actualité Apple qu'on décrypte toutes les deux semaines.
Si ça vous branche, auditrice, auditeur, rendez-vous sur blueprint.pm ou cherchez Mactou, M-A-C-H espace T-W-O, dans votre application de podcast favorite. À bientôt Mathieu.
À bientôt Yann.
À bientôt Yann.